Nous allons voir encore deux de nos 10 commandements. Voyons d'abord le troisième commandement qui occupe le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et là, déjà, nous sommes obligés de revoir un peu la traduction, et il faut dire à la décharge de nos traducteurs que c'est intraduisible. Et il y a une expression hébraïque dans ce verset qui est intraduisible, sinon, en français, sinon par une suite de mots. Vous savez, des choses comme ça. Vous en avez dans le grec aussi. Vous avez par exemple Parakletos, qu'on traduit par le consolateur. Ben oui, mais si on veut donner tout ce que Paraclé veut dire, il faut une quinzaine de mots. N'est-ce pas ? Parce que ça fait consolateur, porte-parole, et bien d'autres choses. Et ici, nous avons une expression hébraïque qui est traduite par en vain et qui ne livre pas son sens, évidemment. Alors, nous allons essayer de voir cela de plus près. D'abord, regardons le commencement du verset. Tu ne prendras pas, ce qui veut dire, très nettement, tu n'utiliseras pas, tu ne te serviras pas, tu n'invoqueras pas. Prendre, c'est donc utiliser, mettre en service, ou invoquer le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, ton Dieu, parce que le nom renferme ce que Dieu a révélé à son peuple de sa personne divine. Dieu a révélé à son peuple, et ce qu'il a révélé est dans Yahvé, le tétragramme hébreu. Le nom de Dieu est donc aussi sacré que la personne de Dieu lui-même. Le nom, c'est la personne. Attendu qu'il ne s'agit pas d'une personne visible, physique, eh bien, le nom, c'est la personne. Et ça, toute la Bible nous montre cela. Et il faut nous habituer à cela. Le nom, c'est la personne. Et la sainteté de Dieu est flétrie, atteinte, et c'est infiniment grave d'atteindre la sainteté de Dieu, si le nom est mal employé. Alors, l'expression en hébraïque signifie plusieurs choses. Elle signifie au service du mal. Tu ne prendras pas le nom de Dieu au service du mal. C'est peut-être ce qui est le plus important, au service du mal. Tu ne prendras pas à tort, ou à tort et à travers. Tu ne le prendras pas faussement. Tu ne le prendras pas pour mentir. Tu ne le prendras pas pour jurer. Tu ne le prendras pas non plus en l'incluant dans une formule magique. Ça y est aussi, ça. Dans une formule magique. Il y en a qui mettent le nom de Dieu dans une formule magique. Tu n'en feras pas un usage léger et frivole. Alors, jurer, n'est-ce pas, c'est prendre Dieu à témoin et impliquer sa personne, qui est trois fois sainte, dans des affaires humaines qui n'en sont jamais dignes, qui ne sont jamais pures. Et puis, le Seigneur Jésus a parlé de jurer. Nous allons voir ça tout à l'heure, de ce qu'il fallait penser de cela. Mais vous voyez l'ensemble des significations. Donc, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire, par exemple, tu ne le prendras pas pour jurer, c'est généralement ce qu'on a compris. Eh bien, on a limité étroitement la portée de ce commandement. La Bible théobée, que voici, l'Ancien Testament théobée, c'est-à-dire la œcuménique, traduction œcuménique, que je ne connais qu'imparfaitement, très imparfaitement, je connais mieux celle du Nouveau Testament, C'est une traduction qui a été faite par des commissions mixtes catholiques et protestantes, mais au départ par des linguistes. Et c'est ce qui en fait surtout la valeur. Elle est publiée tant par les éditions du Cerf, qui est une édition catholique à Paris, que par les bergers et les mages, par l'Alliance biblique universelle, qui est, elle, protestante. Alors là, c'est une Bible que, en somme, personne ne peut renier, ni les protestants, ni les catholiques, et les livres apocryphes de l'Ancien Testament ont été signalés ici comme livres deutéro-canoniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas absolument canoniques. Par conséquent, ils sont là-dedans, dans cette traduction, mais ils sont tout de même à part. Cette traduction œcuménique, voilà ce qu'elle nous dit, à notre verset 7 du chapitre 20. « Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. » Ce n'est pas en vain ici, c'est à tort. Et elle ajoute une note qui est juste, et que voici. Littéralement, tu n'élèveras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour une chose vaine ou fausse. Israël, toujours dans la note, Israël a reçu la révélation du nom, Genèse 32-30, de Dieu, pour pouvoir le louer, l'invoquer, le faire connaître aux nations, mais il ne doit pas s'en servir pour des pratiques obscures et dangereuses, entre parenthèses, faux serments, magie, malédiction. Vous voyez qu'il y a la magie, n'est-ce pas, l'utilisation de Dieu dans des systèmes magiques et pour des malédictions. Vous voyez. Par conséquent, la traduction courante, n'est-ce pas, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, et ça on le trouve aussi bien dans des versions catholiques que protestantes. Vous voyez que cette traduction est insuffisante, mais on ne peut pas mettre 36 mots dans une traduction, on est obligé d'en choisir un. Voilà une des difficultés, par exemple, de la traduction. Alors, il y a notamment juré, mais le Seigneur Jésus lui-même n'a pas été tout à fait d'accord sur la traduction qu'on en fait généralement, et voici ce qu'il a dit dans Matthieu 5, verset 33. « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, » mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ainsi, le Seigneur nous dit mieux encore, c'est de ne pas jurer du tout. Si on dit la vérité, et si on est un enfant de Dieu, pour ne dire que la vérité, on n'a pas besoin d'appuyer ça par un serment. Et un serment dans lequel on va placer soit le nom de Dieu, soit un autre nom, le nom d'un lieu ou d'une chose sacrée. Voilà pour ce qui est de jurer. Mais il y a aussi cette pratique qui est visée là, celle de maudire. Maudire. Et vous savez que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12 et verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et ne maudissez pas. Or, dans les pratiques magiques, il y a souvent cela, n'est-ce pas, une malédiction portée sur quelqu'un, et il arrivait que l'on mette le nom de Dieu dans une telle malédiction. Ne maudissez pas. Le même commandement, bien entendu, de ne pas prendre le nom de Dieu à tort et pour faire le mal à d'autres, à des hommes, eh bien, c'est ce même commandement s'étend, cela va de soi, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus, Yéhoshua, qui signifie l'Éternel sauve. Alors, là, attention, se trouve par conséquent atteint la prière, toute prière, atteinte toute prière, faite dans le nom de Jésus, puisqu'une prière doit être faite au nom de Jésus, mais une prière dont le but serait de demander le succès d'une guerre ou d'une répression armée, ou de demander toute chose vaine. Voyez-vous, mettre le nom de Jésus, c'est comme le nom de Dieu, exactement la même chose dans une entreprise vaine. Et par conséquent, même pour toutes sortes de bénédictions, quelles qu'elles soient, de choses, ben, il va de soi que l'on ne peut pas bénir des choses matérielles au nom de Jésus-Christ, c'est prendre le nom de Jésus-Christ en vain. Nous ne pouvons emprunter le nom de Jésus-Christ pour prier le Père Céleste que dans la ligne messianique, dans la ligne du royaume de Dieu. Et par conséquent, n'est-ce pas, il ne faut pas le prendre pour des choses qui sont en dehors de la ligne messianique, en dehors de l'œuvre qui tend à la préparation du royaume de Dieu. Ainsi, ni le nom de Dieu, ni le nom de Jésus-Christ, ni même son Église, parce que son Église est son corps, ne doivent entrer dans des démêlés humains, quels qu'ils soient. Même si l'on pense avoir pour soi le bon droit ou la défense de la foi, ou le nom de Jésus-Christ, l'Église, par exemple, quand on se sert de l'Église de Jésus-Christ, eh bien, si l'on s'en sert en vain, à tort, on tombe sous le coup de ce commandement. Utiliser, par exemple, le nom de Jésus-Christ ou le nom de l'Église, utilisé pour servir d'alibi à certaines positions humaines. Or, nous avons déjà vu ici que le Seigneur Jésus ne veut absolument pas s'ingérer dans les affaires des hommes. Qui m'a fait juge dans vos affaires, dans vos démêlés, a dit le Seigneur, à celui qui venait lui demander d'intervenir pour que son frère lui fasse justice dans le partage d'un héritage. Et il nous est dit dans le commandement que l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ça, on l'oublie souvent, c'est grave, mes amis, c'est grave. Ne laissera pas impuni. La sanction est donc certaine. Si quelqu'un prend le nom, et particulièrement, bien sûr, un chrétien, s'il prend le nom de Dieu ou le nom de Jésus-Christ pour un objet, un objectif même de vanité, je ne dis pas seulement pour faire du mal, j'espère que cela n'arrive pas, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est prendre peut-être le nom du Seigneur pour des choses qui ne sont absolument pas dans la ligne du royaume de Dieu, et par conséquent, là, il peut y avoir à la clé une sanction du Seigneur. L'Éternel ne laissera point impuni. Comment va-t-il punir cela? Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mais, chers amis, il y a toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses qui peuvent arriver quelquefois, et puis on se questionne, on se dit comment ça se fait que j'ai ça, on prie le Seigneur. Peut-être faudrait-il revenir sur soi, et voyez comme c'est utile de s'examiner, pour voir si vraiment on n'a pas transgressé, par exemple, ce commandement-là. Mais il y a des gens qui ont l'habitude de dire à tout bout de champ et dans leur conversation, « Oh mon Dieu, mais c'est, ça va pas, ça, il faut se corriger de ça, bien sûr, on le dit quelquefois sans intention, sans y penser, mais il faut se corriger de ça. Mais il y a des choses qui peuvent être plus graves que ça. Et on peut dire que, au troisième commandement, qui est de ne pas prendre le nom de ton Dieu à tort, ou à tort et à travers, ou pour faire du mal, eh bien, au troisième commandement, répond la prière modèle de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié. Tu ne prendras pas le nom pour t'en servir à tort, mais que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Nous allons maintenant en venir au quatrième commandement. Le quatrième commandement est celui du jour du repos, le sabbat. Alors, il va nous faire lire les versets 8, 9, 10 et 11. Verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. » C'est un commandement qui apparaît comme ayant un caractère rituel, observé un jour, un temps. Il a manifestement un caractère rituel qui, en somme, le rend différent des 9 autres commandements. Et cela montre tout simplement l'importance que Dieu attache à ce sabbat, ce jour du repos. C'est le rythme de la semaine qui, sur 7 jours, comprend un jour de repos consacré à l'Éternel, un jour de repos qui doit être sanctifié, c'est-à-dire consacré à Dieu, soustrait à l'activité courante des hommes pour être un jour de recueillement, de consécration et de bénédiction renouvelée. Le nom qui lui est donné, le sabbat, vient du mot hébreu shabbat, qui signifie cesser et qui signifie d'une par son utilisation, cesser d'exercer son activité, c'est-à-dire, en somme, se reposer. Donc, sabbat veut bien dire repos. Le sabbat prend une place très importante dans l'Alliance. L'Alliance contractée avec Moïse pour le peuple, et dans ce même livre de l'Exode, au chapitre 31, nous pouvons lire les versets 13 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, c'est le sens de Shabbat, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Vous voyez comme la chose est importante, puisque la sanction c'est la peine de mort. Il faut absolument cesser tout travail, et non seulement le chef de famille et son épouse, mais ses enfants, ses serviteurs, son bœuf, son âne, ou l'étranger auquel il peut donner hospitalité. Tout le monde s'arrête. Pas de travail ce jour-là. Et c'est aussi le jour de l'assemblée communautaire. Dans le Lévitique, au chapitre 23 et au verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le livre des Nombres, au chapitre 28, chapitre 28, verset 9. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétries à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Il y a donc, vous voyez, non seulement une convocation de l'assemblée, une sainte convocation, mais au cours de cette convocation, il y a le sacrifice, l'holocauste. Le caractère du jour du repos est bien toujours marqué, vous le voyez dans tous les textes. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, et afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Donc, l'insistance est essentiellement sur la cessation de travail, comme l'indique le mot même. Il nous reste maintenant à voir ce qu'est dans tout cela notre dimanche. Le sabbat, c'est correspond, nous qui ne sommes pas très loin d'Israël, il y a une différence tout de même, une différence horaire, mais elle n'est pas très grande. Si nous étions en Amérique, il y aurait une différence importante, et si nous étions aux antipodes d'Israël, il y aurait exactement une différence de 12 heures. Alors là, on ne saurait plus si c'est, ça commence le vendredi ou si ça commence le samedi, on serait dans l'incertitude pour fixer aux antipodes d'Israël, parce que c'est pas le sabbat est donné au peuple juif pour qu'il le célèbre dans le pays de la promesse. Le pays de la promesse avait une épine dorsale montagneuse qui allait et va sensiblement du nord au sud, et alors là le soleil se couchait, on peut dire, partout de la même manière. Alors là, il y avait vraiment, à partir du vendredi soir, puisque la journée israélite commence le vendredi, vers, mettons, les pans de l'heure, mais enfin, mettons, à peu près 18 heures, alors c'est là que commençait le sabbat, le vendredi, vers 18 heures, c'est-à-dire au coucher du soleil, jusqu'au samedi coucher du soleil. Nous avons donc un samedi qui correspond à peu de choses près au sabbat, au jour du sabbat, en Israël même. Mais les chrétiens, eux, se réunissent et célèbrent un autre jour, le jour suivant, le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Alors, parlons un peu de ce dimanche. Est-il légitime ou ne l'est-il pas? Le Christ et les apôtres ont continué à observer le sabbat. Voyons dans la Bible. Il continuait à observer dans les actes notamment, et au cours du sabbat, il faisait la prédication évangélique, profitait que les juifs étaient réunis là dans leur synagogue pour venir y prêcher. Mais peu à peu, le lendemain, premier jour de la semaine, jour de la résurrection de Jésus-Christ, je précise de la résurrection constatée, car c'est à la pointe du jour que la résurrection est constatée. Et l'on ne peut pas dire que les textes évangéliques nous disent que Jésus est ressuscité à la pointe du jour. Il était peut-être déjà ressuscité. On voit qu'il est absent. À la pointe du jour, on constate son absence. Ah, mais attention, parce que ça a faussé un tas de choses, ce que je vous dis là. C'est tout simple. Et il a pu ressusciter, très bien, dans la nuit, ou même ressusciter à la fin du jour, du samedi, du jour précédent. Donc, le premier jour de la semaine s'est substitué au dernier jour, au samedi. Après deux ou trois siècles, d'ailleurs, le remplacement était généralisé. Le sabbat juif n'était plus du tout pratiqué dans l'Église et c'était uniquement le dimanche. Attaché à Jésus-Christ, à la manifestation de sa seigneurie, le dimanche apparaît donc comme une institution vraiment nouvelle à certains points de vue, à un certain égard, comme une institution nouvelle. Et il ne continue pas le sabbat. Il ne remplace pas, si plus exactement, le sabbat. Il lui succède. Le dimanche succède. C'est pas la peine d'entrer en bataille avec tous ceux qui vont plaider en faveur du samedi et dire que le dimanche, en somme, a prétendu prendre à lui le jour du sabbat, le jour du repos. Pas du tout, il succède au sabbat juif. C'est pas la même chose. Alors, il y a évidemment toute une étude à faire. Je ne peux pas la faire ici, nous n'en avons pas le temps, mais je vais quand même vous donner quelques petits aperçus. Nous avons d'abord dans la loi, c'est-à-dire dans le Pentateuque, si vous voulez, les saints rouleaux, nous avons des prescriptions concernant les fêtes et qui occupent une septaine de jours, sept jours. Il y a quelque chose de mystérieux, car il y a un huitième jour. Il y a un huitième jour. La semaine n'a jamais été de huit jours. Il y a un huitième jour. Nous allons lire, par exemple, dans Lévitique 23, 35. Le premier jour, il s'agit de la fête des tabernacles. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, écoutez bien, le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Tiens, voici le second sabbat là. C'est curieux, huitième jour. Et c'est une assemblée solennelle. Indiscutablement, et je vais vous le prouver, c'est prophétique, car il y a dans la loi des données prophétiques. Voyons dans ce même chapitre encore, dans ce même livre, le chapitre, le chapitre toujours, le même chapitre, et le verset, j'ai dit chapitre 23, n'est-ce pas, verset 39. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, et notez qu'il s'agit de récolte, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant sept jours. C'est le chiffre là de Dieu. Le premier jour sera un jour de repos. Et le huitième sera un jour de repos. Le huitième encore. Le huitième jour sera, et il s'agit de récolte, il s'agit de fruits de la terre. Et si l'on se nourrit de l'Écriture. Si on aime la lire, la sonder, on ne peut pas manquer de s'apercevoir que Jésus-Christ et la postérité qui va lui être donnée en raison de la rédemption qu'il opère, Jésus-Christ est vu comme le fruit de la terre, la récolte par excellence. La grande récolte, c'est la grande moisson. Jésus a lui-même employé cette figure dans une parabole de Matthieu 13. La moisson, la récolte. Et il y aura un huitième jour qui sera un jour de repos. Pourquoi cela? Eh bien, si maintenant nous allons dans le Nouveau Testament et que nous regardions le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Nous lisons ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, l'Évangile, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent, les Juifs surtout, n'est-ce pas? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et le sabbat, je vous le fais remarquer, dans le chapitre 20 de l'Exode, est mis en relation avec le repos de Dieu lors de la création. Bien, continuons. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns, c'est-à-dire à un grand nombre, en grec quelques-uns ou plusieurs, c'est un grand nombre, d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, les Juifs, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante. Je m'arrête là. Évidemment, il y a dans ce chapitre 4, très subtil, une sorte de passage du sabbat qui est le rythme de la semaine, du sabbat qui est le septième jour, le repos du peuple juif, au repos de Dieu. Mais nous voyons que le repos de Dieu nécessite un nouveau jour, un autre jour. Et ce jour est le suivant, le huitième, car Ézéchiel l'a prophétisé dans son chapitre 43, il a vu là les choses nouvelles, la vision de la gloire de l'Éternel. Chapitre 43 d'Ézéchiel, verset 26 ou 25. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour, et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Avons encore la réapparition d'un jour nouveau, d'un huitième jour, et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes, un huitième jour auquel il faut rompre le pain. Offrir, si vous voulez, à Dieu ce culte au centre duquel il y a la rémémoration du sacrifice du Seigneur. Ce signe qui annonce la mort expiatoire du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous savez que les nombres ont une grande importance dans la Bible, une grande signification, plus grande qu'on ne pense. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a montré qu'il fallait faire attention aux nombres. Quand il a dit à ses apôtres, « Combien avez-vous emporté de corbeilles après la première multiplication des pains ?»« 12 » ont-ils dit. « Et après la seconde, 7 » ont-ils dit. « Alors, ne comprenez-vous pas ?» Ils n'y ont rien compris du tout. C'est certain. Mais enfin, plus tard, l'Esprit les a éclairés. Mais vous voyez comme Jésus, n'est-ce pas, lui-même s'est servi des nombres. Or, savez-vous que Jésus-Christ a pour nombre caractéristique 8. 8. Et que, en grec, Jésus-Christ, puisque vous savez que toutes les lettres en grec ont une valeur numérique, Jésus-Christ donne 888. C'est-à-dire exactement ce nombre à trois chiffres qui s'oppose symétriquement au-delà du 7 au 666 de la bête. Ah, ce sont des choses, peut-être des considérations un petit peu difficiles quand on les entend à première vue, etc. Mais chers amis, il faut sonder la Bible. Que voulez-vous que je vous dise ? Le 8, par conséquent, est caractéristique de l'Alliance Nouvelle. 7 est acquis, le 7 est acquis, la plénitude de Dieu est acquis, mais il y a un jour nouveau, c'est l'éternité avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le dimanche est légitime, que le dimanche répond même à la prophétie biblique. C'est d'ailleurs sous les yeux des apôtres que cette transformation, cette transplantation, si vous voulez, du jour du repos, du samedi au dimanche, s'est faite. L'apôtre Paul même en parle, et il l'a vu se faire, et il ne s'est pas élevé contre, bien au contraire, on rompait le pain dans les maisons le premier jour de la semaine. Jésus ressuscité, c'est la Pâque nouvelle. C'est la Pâque dont la Pâque juive était la prophétie et l'annonce. Le dimanche est donc dans la même ligne et il accomplit le sabbat. Jésus est venu accomplir la loi. Il accomplit le sabbat. Le dimanche, ainsi, est bien le jour de l'Église, qui convient à l'Église. Ce dimanche est maintenant là pour rappeler à l'homme sa disponibilité vis-à-vis de Dieu. Il a des caractères qu'il emprunte, bien sûr, au sabbat juif. Rappeler sa disponibilité vis-à-vis de Dieu. Il est l'anniversaire hebdomadaire d'une délivrance de la mort, de l'absurde vie sans Dieu, la résurrection, une délivrance de cette vie atroce, absurde, sans signification, une vie sans Dieu. Et le dimanche est là aussi pour briser la servitude du travail. Il est là pour la louange et l'adoration de Dieu dans les communautés qui, elles aussi, doivent se donner une sainte convocation. Dans les communautés où tous les membres devraient être d'ailleurs présents. Et le dimanche est le mémorial de la nouvelle création, de la nouvelle humanité qui est entrée dans le repos. Si ce sont, n'est-ce pas, les hommes et les femmes nés de nouveau, appartenant au corps de Christ, ils appartiennent aux 8. Le 7, la plénitude, ils l'ont, la plénitude de Dieu, c'est le 7. Ils l'ont reçu par Jésus-Christ, qui est, lui, le 8, le nouveau jour, le jour de la nouvelle humanité. Toutes ces choses, n'est-ce pas, sont très importantes, mais aujourd'hui, il faut bien dire que notre foi est végétative. Elle est végétative. Il faudrait, chers amis, c'est pas dur, c'est pas difficile, ce n'est pas astreignant, c'est au contraire libérant que d'avoir une foi et de vouloir vivre une foi réelle, une foi véritablement nourrie de la parole de Dieu et apportant à Dieu tout ce qui doit lui être apporté. Quand je vois des chrétiens, qu'est-ce que vous voulez, qui le dimanche font leur travail, vont n'importe où, ne manquent à leur culte, soit parce qu'il y a des gens qu'ils doivent recevoir et auxquels ils vont faire un festin, une réception, alors ils vont se mettre en cuisine à laver la vaisselle le dimanche. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est révoltant, et c'est une révolte contre Dieu. C'est une révolte. Ça mérite la peine de mort. Sous la loi de Moïse, ça méritait la peine de mort. Alors, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, on peut dire, mais je pense au Seigneur Jésus-Christ qui voit cela sur la terre. Voit ceux qui se disent être son Église, et qui pensent être son Église, et puis qui volontiers massacrent le jour du repos. Lisez Ésaïe, le chapitre 58, et vous verrez ce que le prophète dit du jour du repos. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lamentable, absolument lamentable, lamentable. Il n'y a pas, si quelqu'un, un membre de la famille dit, s'annonce le dimanche, eh bien il faut immédiatement lui dire ou lui écrire, viens le dimanche si tu veux, mais moi le dimanche, je le consacre à l'Éternel. Ce sera là le témoignage. Je le consacre à l'Éternel, je vais à mon culte, je vais même à ma réunion de l'après-midi, parce que j'ai quelque chose à y faire, et ce jour-là est consacré à Dieu. Et d'entendre les sottises, hein, et les balbutiements de l'homme irrégénéré, ça je m'y refuse. Et c'est ça le témoignage. Alors on se dit, ah non, vous comprenez, ce sont des parents qui ne sont pas convertis, alors pour leur servir de témoignage, on va les recevoir, on n'ira pas au culte parce qu'il faut faire la cuisine, il faut mettre la table, etc. C'est lamentable, lamentable, chers amis. Jamais vous ne rendrez témoignage en faisant plier la parole de Dieu et en entrant dans la désobéissance. Jamais. Ce qu'on voit maintenant dans le christianisme, quelle qu'en soit la couleur, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas à leur lieu d'adoration et de culte, eh bien ça veut dire que le christianisme, ils ne le vivent pas, ils ne l'aiment pas, et ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. C'est, qu'est-ce que vous voulez, ces choses-là, il faut les dire. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse manquer son culte. Ou alors, il faut être vraiment malade, mais moi j'ai connu un homme, et qui, à Alger, qui était malade, terriblement malade. Et j'étais venu le voir le samedi, la veille par conséquent de notre jour de culte, hein, du dimanche, et appelé par son fils. Et alors je m'étais informé, on m'avait dit, mais il est passionné en ce moment pour son jardin, il n'y a pas moyen, c'est un homme qui avait déjà 70 ans passé, passionné pour son jardin, il se sent de la force. Le Seigneur l'a renouvelé, alors il est passionné pour son jardin, alors toc, cette semaine, il est tombé, on est allé voir le médecin, et c'est très grave. Et c'est très grave. Bon, alors, je connaissais cet homme qui s'était converti un certain temps avant, je lui ai pas donné des paroles de baume. Je lui ai dit, mon cher, eh bien, vous êtes puni de Dieu tout simplement parce que vous avez abandonné Dieu. Qu'avez-vous fait cette semaine? Quelle prière avez-vous élevée vers lui? Oh, j'étais travaillé dans mon jardin jusqu'à 9h du soir. À 5h du matin, 5h du matin, 9h du soir. Eh, parce que c'est le moment de planter, c'est le moment. Bon, et c'était pas le moment de prier. Alors je lui ai dit, vous êtes puni de Dieu. Et c'est Dieu et qui maintenant vous montre que vous l'avez abandonné, vous avez abandonné Dieu, eh bien vous verrez que c'est une chose amère que d'abandonner Dieu. Voilà comment je lui ai parlé. Et cet homme, son fils, était tout ennuyé que je lui parle de cette manière-là, et je vous assure, j'employais pas une voix douce. Je dis à son fils, laissez-nous tranquille. Et alors cet homme me dit, eh bien, demain je vais au culte. Ah. Alors son fils arrive et dit, mais papa, tu peux pas aller au culte, voyons. Tu iras peut-être dimanche après, mais ce dimanche tu peux pas. Je dis, laissez-nous tranquille, il ira au culte. Et on l'emmènera sur une civière s'il faut, mais il ira au culte. Et le lendemain, eh bien, on l'a enveloppé, tant qu'on a pu, dans les couvertures, tout ça, on l'a mis dans une voiture et on l'a amené au culte. Et il est venu au culte, et il a été guéri au culte. Il a été relevé au culte, immédiatement. Car je ne sais pas si vous le savez, mais quand on se repent, et que l'on examine sa conscience, et que l'on prend la Sainte Cène dignement, en discernant le corps et le sang, et je vous assure que cet homme, il l'a fait ce jour-là, eh bien, il y a une bénédiction dans la Sainte Cène. Il y a une bénédiction. Dieu vous relève. Dieu vous remet d'aplomb sur vos jambes pour le servir. Et alors, quand je l'ai vu après, quelques jours après, il habitait pas très loin de chez moi, et il dit alors, le jardin, oh, ça m'est égal, le jardin, oh, ça m'est égal, ça m'est égal. La leçon avait suffi, elle était bonne. Hein. Il dit, laissez les herbes, les mauvaises herbes pousser dans le jardin, et puis vous, n'est-ce pas, sarclez votre âme et présentez-vous l'âme lavée devant votre Dieu. Il y a des gens qu'on appelle des sabbatistes. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes. Des sabbatistes. Les sabbatistes sont des chrétiens qui veulent ramener l'Église à l'observation du samedi. Et j'ai eu avec eux, oh, à certains moments, le plus grand mal, mais des débats. Ils veulent ramener l'Église à l'observation du sabbat, ils n'acceptent pas le dimanche. Alors que Jésus a dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Même du sabbat. S'il est maître du sabbat, il est maître d'en changer le jour et de le placer au jour nouveau qu'annonce la prophétie. La substitution s'était donc déjà amorcée dans l'Église primitive. Le samedi, qui est le sabbat juif, était le repos après le travail effectué, tandis que le dimanche est le repos en Dieu, préparant l'accomplissement du royaume de Dieu qui vient. Le dimanche est tourné vers le royaume de Dieu qui vient. Tandis que le sabbat juif, lui, était essentiellement tourné vers la délivrance d'Égypte. Comme le Deutéronome 5 qui répète le sabbat le note bien, n'est-ce pas ? Tu as été délivré d'Égypte à main forte et à bras étendus. Tandis que la Sainte Cène est orientée, elle, tout à fait vers le royaume de Dieu, Jésus ayant dit, faites ceci en mémoire de moi, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de mon Père avec vous. Alors c'est tourné dans la Sainte Cène, il y a l'espérance, c'est un jour de résurrection, c'est un jour nouveau. C'est ce que les sabbatistes, qui sont en général affligés d'un littéralisme vraiment étroit, ne peuvent pas arriver à comprendre. Ceux qui sont des littéralistes ne savent pas comprendre pas l'esprit de l'Écriture, ils sont vraiment malheureux. Enfin, Dieu a institué une alliance nouvelle dont nous parle le chapitre 31 de Jérémie et qui est mentionnée aussi dans l'Épître aux Hébreux. Eh bien, Dieu a institué une alliance nouvelle, alliance qui, à la loi du Sinaï gravée sur la pierre, substitue la loi écrite dans les cœurs. Il y a substitution d'une alliance à l'autre.
Et par conséquent, on ne peut pas prendre dans l'ancienne alliance quelque chose qui a un caractère rituel et qui correspond au caractère de cette alliance et aux faits, aux événements de cette alliance et des délivrances qui sont incluses dans cette alliance. On ne peut pas prendre ça pour les transporter dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle, n'est-ce pas, elle a des clauses tout à fait nouvelles, lisez chapitre 31 de Jérémie, à partir du verset 31, et vous verrez, n'est-ce pas, cela, c'est rappelé dans l'Épître aux Hébreux, je ferai avec eux une alliance nouvelle, la loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais elle sera écrite sur les cœurs, une alliance nouvelle, et l'Épître aux Hébreux nous dit, l'ancienne alliance a vieilli, elle est près de s'arrêter. Elle est près de s'arrêter, elle est près de sa fin. Et il y a une alliance nouvelle. Alors, le décalogue est écrit sur les cœurs et non plus sur des tables de pierre. Et l'œuvre de Jésus-Christ étant là, c'est le huitième jour, ou si vous voulez, le premier jour de la semaine, qui est maintenant le jour de l'Église. Eh bien, chers amis, que ces choses, nous les gardions et nous en tenions compte. Amen.